Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Vous écoutez le balado de l'IPS, l'émission toute désignée pour en apprendre plus sur les enjeux de santé, le développement du médicament ou démystifier la pharmacologie. Alors, bonjour à tous les auditeurs. On est au 7e épisode du balado de l'IPS. Je suis en compagnie, en bonne compagnie ce matin avec Sébastien Dion, qui est professionnel de recherche à l'Institut de pharmacologie, mais maintenant, plus au Bureau de la valorisation et des partenariats. Peux-tu nous parler un petit peu de ce que tu fais dans la vie?
Oui, bonjour. Donc, en fait, je suis dans une espèce de poste partagé entre l'Institut de pharmacologie de Sherbrooke et le Bureau de la valorisation et des partenariats de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Mes tâches, c'est d'accord une coordination de recherche, principalement de la rédaction au financement partenarial. Donc, je suis là vraiment en support aux projets qui mettent en relation différentes parties prenantes, que ce soit des OBNL, des compagnies privées, d'autres universités et des chercheurs de l'Université de Sherbrooke. Puis, j'aide un peu à coordonner ces efforts-là.
Ah, super! Donc, c'est vraiment quand même une job complète. Puis avant ça, tu étais, toi, étudiant chez le professeur Richard Leduc. Tu as travaillé beaucoup là dans toutes les maladies infectieuses avec le professeur Leduc. Donc, tu as quand même eu beaucoup d'expérience aussi au niveau fondamental, si je ne m'abuse.
Oui, tout à fait. Donc, j'ai fait mon doctorat à l'IPS, puis c'est sur ça que j'ai travaillé.
Exact, exact. Puis, je suis aussi en compagnie de Sarah Ferkova, qui est une étudiante au doctorat en pharmacologie. J'ai toujours peur de me tromper quand je le dis. Donc, Sarah, qui est... En fait, les deux personnes avec moi aujourd'hui, c'est pas mal les faces qu'on a sur nos banderoles promotionnelles. Donc, c'est des gens très impliqués. Je suis très contente de les avoir avec moi. Donc, Sarah, toi, tu fais ton doctorat en pharmacologie. C'est quoi ton sujet de recherche, plus précisément, chez Pierre-Luc?
Ouais. Puis, premièrement, bonjour à tous. Merci, Véronique, pour l'invitation.
Ça fait plaisir.
Donc moi, je suis une étudiante au doctorat en pharmacologie et je travaille en fait sur le développement des molécules, qu'on dit macrocycliques, dans le cadre de la COVID-19. Je suis sous la supervision de trois professeurs, Boudré, Sarré et Grandbois.
Oh boy, trois professeurs, donc ouais. C'est quoi? C'est pas une co-direction, en tout cas, c'est une tridirection.
C'est ça.
C'est quand même intense, d'accord? Puis, qu'est-ce que c'est les molécules macrocycliques, peut-être pour vulgariser un petit peu pour les gens?
Ouais, c'est les molécules qui ont une grande taille et en fait, ils ciblent à animer une interaction protéine-protéine, donc entre justement deux protéines.
OK, wow. OK, donc c'est quand même très fondamental. On va en parler tantôt un petit peu, là, parce qu'aujourd'hui, notre sujet, les amis, on en a parlé, c'est les étapes du développement du médicament. Donc, pourquoi on a choisi ce sujet-là aujourd'hui? Bien, c'est parce que, comme vous le savez, pendant la pandémie qu'on a eue, vous en souvenez-vous, on a eu une pandémie qui a duré à peu près deux, trois ans, c'est ça, de COVID-19. On s'est rendu compte que les gens, il y avait des fausses informations qui circulaient par rapport à Big Pharma, toutes ces choses-là, de dire, OK, quand on veut sortir un médicament sur le marché, on peut sauter des étapes, ça dépend sur combien qu'on a, comment qu'on graisse la patte des Big Pharma, puis tout ça. Puis il y a beaucoup de croyances comme quoi on peut sauter des étapes, puis on n'est pas tant protégé en tant que société. Fait qu'aujourd'hui, on veut comme essayer de démentir, de défaire un petit peu ce mythe-là avec vous. Puis pour ce faire, justement, chez Ordonne, tantôt, on parlait avec Sarah du prix Nobel en médecine cette année. Tu peux peut-être nous parler un petit peu de ça. Ça introduirait bien notre sujet d'aujourd'hui, justement.
Effectivement, le prix Nobel cette année a été donné aux deux professeurs, Dr Weissman et Dr Haricot, qui ont développé les vaccins à ARN messager. Donc, c'est des vaccins qui ont été développés il y a 20 ans, mais on n'a jamais entendu d'en parler parce que justement, sauf les chercheurs, j'ai envie de dire, les gens ne s'intéressent pas à la recherche fondamentale. Non, c'est difficile de la comprendre. Et justement, aujourd'hui, ou bien cette année, on a donné le prix Nobel à ces deux chercheurs qui ont travaillé sur ce sujet fondamental depuis 30 ans, en fait. Et ça parle justement des vaccins où on administre tout simplement, dans le vaccin, on administre une particule lipidique dans laquelle se trouve ARN messager, donc une unité au final qui rentre dans la cellule humaine et qui est transformée en protéine spike, qui est une partie de SARS-CoV-2, du virus lui-même.
Ça coiffe.
Exact, oui. Qui coiffe SARS-CoV-2. Et notre système immunitaire, il comprend en fait qu'est-ce que c'est. La spicule, c'est quelque chose qui est différent de notre corps. Donc justement, ça booste notre système immunitaire à réagir et à comprendre Oui, ça, c'est quelque chose
qui... Ça, c'est méchant.
Ouais, ça, c'est méchant, ouais, exactement. et donc, lorsqu'on, nous, on est infectés par le vrai virus, notre système immunitaire, il réagit tout de suite.
C'est comme un entraînement.
Exact, exactement comme un entraînement.
C'est comme un camp d'entraînement de notre système immunitaire pour combattre. Toi, je sais que tu étais chez le Duc aussi, donc...
Oui, j'ai quelque chose à ajouter par rapport à ça, juste pour le grand public qui nous écoute. En fait, quand on dit que le vaccin, et la technologie derrière le vaccin était prête, mais c'est pas le vaccin lui-même contre le virus SARS-CoV-2. Non. Donc, toute l'ingénierie du vaccin était prête, mais on est venu, une fois que la pandémie a commencé, adapter cette technologie-là pour traiter, pour prévenir, en fait, l'infection par le SARS-CoV-2. Mais c'était pas tout prêt, c'était pas caché dans un garde-robe en attendant que la pandémie frappe. Oui. C'est vraiment la technologie qui avait été développée en amont. Puis, par la suite, une fois que la pandémie a commencé, on a pu faire des ajustements, lancer les essais cliniques. Mais la technologie derrière le vaccin, ça, c'est quelque chose qui était déjà bien connu. C'est pas comme développer un nouveau médicament pour l'Alzheimer, par exemple, avec des
voies
d'utilisation exactement qui sont inconnues.
Puis si je me trompe pas, vous allez peut-être pouvoir me corriger. Là, moi, je suis une non-initiée, mais je crois que cette technologie-là, cette ingénierie-là biotechnologique avait été essayée auparavant avec le sida, je pense, puis avec d'autres virus, mais ça n'a pas été fructueux. Donc là, c'était comme une réussite, d'autant plus par rapport au prix Nobel, là, de réussir à ce que ça fonctionne et que ce soit prouvé fonctionnel, en fait. Si je ne me trompe pas, est-ce que c'est exact?
Effectivement, c'est le cas, oui. Aujourd'hui même, cette technologie, elle est utilisée pour développer des médicaments contre le cancer.
Oui.
Et on a des résultats qui sont très, très prometteuses.
Cancer de peau, hein, je pense.
Possible, oui, oui. Oui,
oui.
je ne sais pas ce que je voulais ajouter.
Non, c'est bon. Tout ça pour dire que le SARS-CoV-2 dont Sarah parlait, c'est la COVID-19. Donc, c'est ce vaccin-là qui a causé tant d'émoi. Donc, c'est un peu l'idée de l'épisode aujourd'hui, c'est de montrer à quel point ça a été développé sur un long temps, mais que nous, tout ce qu'on a su, c'est qu'il y avait une espèce de combat entre diverses pharmaceutiques pour trouver, puis divers pays, pour trouver le vaccin en premier, blablabla. Là, on avait Spoutnik du côté de la Russie. Après ça, on avait tout ça. Fait que nous, c'est ça qu'on a vu en tant que citoyens. Mais oui.
Sans que l'étape soit escamotée, il y avait quand même une réalité que la pandémie avait des conséquences graves, tant au niveau économique, social, etc. Donc, il y a certaines étapes qui ont été accélérées, surtout tout ce qui était règlement. Il n'y a pas de règlements qui ont été sautés, mais oui. L'analyse des dossiers s'est faite avec une plus grande équipe, avec une rapidité, une force. Il y avait quand même urgence. Donc, ça peut expliquer pourquoi ça a pu sembler plus rapide. Mm-hmm. Je ne sais pas, on sait qu'on pourrait peut-être aller faire ça pour d'autres maladies graves aussi, éventuellement.
C'est sans dire qu'ils ont sauté des étapes de validation. Probablement que le dossier est venu dessus de la pile.
Exactement.
Mettons, là, tu sais, parce que normalement, tu sais, chez Santé Canada, tu as un ordre de dossier, tout ça. Mm-hmm. Mais là, sûrement que PFDA, puis tout ça, là, mais sûrement que là, ce que ça a fait,
c'est OK,
ben là, ça va mal. Fait qu'on va le mettre sur le top de la pile, puis on va le prioriser, en fait. C'est une priorisation, exactement.
C'est exactement comme ça, ça s'appelle. Ça s'appelle aussi Fast Track. Donc, vraiment, la FDA et Santé Canada, ils sont prêts à communiquer avec les chercheurs d'une façon très intense, tous les jours, quasiment, pour mettre le médicament sur le marché. Je pense que justement, la COVID-19 était une opportunité aussi pour d'autres entreprises d'investir leur argent pour développer ce vaccin parce qu'au final, ça sauvait le monde entier.
Ben c'est ça. Tout le monde était un petit peu pris là-dedans, donc c'est sûr que c'était important. Puis là, si on rentre dans les étapes, parce qu'il y a beaucoup d'étapes au développement de nouveaux médicaments. Si on oublie, par exemple, le vaccin qui avait déjà... en fait, les étapes ont été faites quand même avec l'ingénierie qui a été développée. Mais avant de commencer à penser à lancer un nouveau médicament, évidemment, je pense que c'est évident pour vous, puis ça va l'être pour les gens, mais il faut trouver une molécule, il faut trouver une molécule d'intérêt. Puis ça, je pense que tous les deux, en fait, vous êtes dans la recherche fondamentale, puis vous vivez un peu cette étape-là de partir à la recherche en quête d'une molécule qui pourrait être intéressante à développer. Comment ça se passe, ça, cette étape-là, puis combien de temps ça peut prendre?
Donc, si je peux commencer, la première étape, en fait, est encore vraiment plus en amont que ça. Il faut comprendre la pathologie à laquelle on s'intéresse. Donc, le travail autour de la cible thérapeutique est essentiel. Puis ça peut prendre des fois des années. Puis il y en a certaines cibles qu'on n'est pas encore capable de comprendre comment on pourrait interagir avec elles correctement pour venir moduler ultimement une pathologie.
Je t'arrête deux secondes. Cible, qu'est-ce que tu veux dire par là?
J'ai une maladie qui est causée, par exemple, par une protéine qui agit mal. Mais comment je peux venir cibler cette protéine-là dans le corps, que ce soit un récepteur, une enzyme ou une autre protéine.
Okay.
Donc, comprendre vraiment la maladie est causée par quoi, comment. Puis ensuite, avec nos chers collègues chimistes, parce que nous, les biologistes, on peut vraiment comprendre comment la maladie se profile. On peut designer, penser vraiment à comment venir mesurer l'impact de cette maladie-là, comment on peut avoir des choses qu'on peut mesurer avec les futures molécules qui vont être développées. Puis ensuite, une fois qu'on a bien identifié la cible puis les mécanismes sur lesquels on veut agir, bien, on passe un peu la balle à nos collègues chimistes qui peuvent développer des molécules d'intérêt.
Quand on revient à la serrure, enfin, la fameuse serrure en pharmacologie, c'est un peu vous essayez de comprendre à quelle serrure on devrait s'intéresser finalement.
Tout à fait.
Puis après ça, chez Sarah, ben, chez les chimistes, comment ça se passe une fois qu'on a trouvé cette serrure-là?
Oui, effectivement, nous, on synthétise des molécules selon où se trouve cette serrure. Est-ce qu'elle est à l'intérieur de la cellule ou bien elle est sur la surface des cellules, dans la bicouche lipidique? On doit ajuster les propriétés chimiques de la molécule et donc, au final, travailler sur notre synthèse. Est-ce que j'ajoute une certaine partie sur la molécule pour que, justement, le médicament agisse d'une certaine façon? Donc, c'est toutes les questions que nous, on se pose comme chimistes. Et puis, ça nous prend, effectivement, plusieurs semaines, voire plusieurs mois à développer une molécule qui est, au final, efficace et active.
OK, qui serait d'intérêt, comme on dit, une molécule
exact.
D'intérêt. Puis là, si on cumule les deux étapes, mettons, des biologistes, des chimistes, combien d'années ça peut prendre avant d'arriver à une molécule d'intérêt qu'on a le goût d'essayer en préclinique, qui est notre prochaine étape?
Ça peut prendre un bon 6 à 8 ans de développement. Mais en fait, ça dépend vraiment du projet, mais c'est plusieurs années. Ça se compte pas en termes de semaines.
Ça dépend de la recherche ou ce qui a été fait en amont, j'imagine, sur la même cible. Mm-hmm. Parce que des fois, ça arrive que pour une même maladie, une même pathologie, il y a déjà eu des recherches. Donc, mm-hmm. on peut s'en inspirer. Ça accélère peut-être un petit peu cette étape-là en amont. Là.
Par exemple, si on s'intéresse à une protéine puis que sa structure est connue, versus une protéine pour laquelle on connaît pas sa structure, donc on sait pas à quoi la serrure ressemble, puis c'est dur de venir designer des molécules puis de les tester par la suite. L'autre chose aussi, pour garder la même analogie de serrure, il y a des serrures qui se ressemblent énormément. Donc si on prend par exemple TMPRSS2, qui est une des protéases impliquées dans la COVID-19, mais elle ressemble beaucoup à d'autres TMPRSS.
C'est comme une famille, fait que ça ressemble un peu comme nous, on ressemble à nos frères ou nos sœurs, ben c'est comme des différentes protéases hein, qui se ressemblent. Oui. Donc des protéases, protéines, c'est pas la même chose.
Mais les protéases sont des protéines, donc c'est des enzymes en fait. Les protéases, c'est des protéines qui agissent comme des enzymes.
C'est comme des protéines complexes, des protéases. C'est ça?
Il y a plusieurs façons de le voir. On peut dire ça comme ça, oui.
Un complexe de protéines, protéases, en tout cas. On parlait tantôt de pivot-piva, là.
Ouais.
Une bière, deux bières. Donc, une fois qu'on a cette molécule d'intérêt-là, évidemment, ben, on ne va pas la tester sur les êtres humains directement. Hein, parce qu'on veut vérifier, justement, ses effets, donc tout ça. Donc, quand on va dans la phase préclinique, là, ça, c'est du côté chez nous de Philippe Sarret, phénotypage préclinique, tout ça. Qu'est-ce qu'on essaie de faire dans cette étape-là?
Exactement. Donc, tout d'abord, on a compris est-ce que la molécule, elle interagit avec la cible. Et maintenant, notre intérêt, c'est de comprendre comment la molécule, elle agit sur une cellule ou bien sur un tissu ou bien in vivo chez les animaux. Donc, on teste dans les modèles différents. Ça peut être une souris, un rat, etc. Tout dépend de la maladie. Donc, on va tester est-ce que la molécule, elle est efficace aussi in vivo. Est-ce qu'elle est puissante pour avoir son effet et également on regarde les effets secondaires.
Ouais, évidemment,
toutes les sortes d'effets secondaires. Est-ce que cette molécule-là, elle va créer des lésions chez un rat ou bien des paralysies?
Des palpitations, des douleurs. Ouais.
Je peux ajouter quelque chose aussi, encore une fois, pour les gens qui nous écoutent. Nous, on est habitués, on travaille à l'Institut de pharmaco, mais tout test qui est fait chez les animaux va être pré-approuvé par un comité d'éthique. Donc,
oui.
On ne peut pas juste décider à go qu'on commence un test chez l'animal.
Prendre un rat dans la ruelle.
Donc, il y a des étapes préliminaires, essayer de réduire le nombre d'animaux au maximum, puis s'assurer que d'un point de vue éthique, c'est conforme.
Puis même du côté de... Je m'excuse, Sarah. Du côté de Pedro, quand il est venu en entrevue, il disait maintenant, on a même des normes au niveau du genre. Donc, femelle, mâle,
oui, faut que ce soit...
Je pense qu'aussi, on est très, très chanceux, l'Institut de pharmacologie, de pouvoir collaborer avec ces personnes différentes et spécialisées dans des domaines différents. On ouvre la porte et on peut aller parler aux biologistes selon les défis d'un projet à l'autre. Et je pense que quand tu as posé la question, justement, combien de temps ça nous prend de développer un médicament? Tout dépend de l'équipe qui travaille sur le projet. Dans un milieu universitaire, c'est vraiment une étudiante qui commence peut-être son projet et puis on collabore ensemble et ça devient des projets qui ont des tailles plus grandes. Mais par exemple, dans les entreprises pharmaceutiques, c'est des équipes de plusieurs personnes qui travaillent dessus. Donc effectivement, ça varie le temps de travail qu'on a besoin.
Le facteur multidisciplinaire dont tu parles, c'est d'ouvrir la porte, d'aller voir le biologiste, puis de prendre une petite marche, puis d'arriver chez les cliniciens du côté du centre de recherche du CHU. Donc, on a quand même une belle accessibilité, un bel écosystème. Tu as raison, Sarah, puis c'est une des choses qui est particulière ici à Sherbrooke, qu'on puisse avoir ça. Puis c'est sûr que ça accélère le médicament. D'ailleurs, c'est notre slogan, accélérer la recherche du médicament. Donc là, la phase préclinique, on parle de combien de temps à peu près là, avec... avec les cellules, tout ça, de vérifier là, que ça serait éventuellement admissible pour être essayé par des êtres humains. Mm-hmm. Donc, c'est ça.
Mais je le comptais un peu dans ma réponse de tout à l'heure. Donc, 2 à 8 ans en moyenne, incluant tous les essais sur cellules, toxicité cellulaire, les essais sur les animaux.
Donc là, on est rendu à 8, entre 8 et 15 ans, là, mm-hmm. avec nos deux étapes.
Un bon doctorat,
oui, c'est ça, un long doctorat. Donc, on voit que déjà là, on n'est même pas rendu à l'humain, là, puis on parle de plus d'une dizaine d'années. Là. Ensuite, ben, c'est sûr que là, il y a les phases cliniques. Donc, les phases cliniques, ça, c'est sûr que c'est toujours compliqué dans le sens que ça prend de l'argent. Faire des phases cliniques, ça prend c'est à ce moment-là qu'on va chercher les collaborateurs. Mm-hmm. Toi, tu dois connaître ça un petit peu tout ça. Il y a 4 phases. Pouvez-vous me parler un petit peu de ces phases-là cliniques puis de comment ça se passe?
Oui, mais dans un premier temps, il y a une phase 1 qui va être faite sur des volontaires sains. Donc, c'est des gens qui ne présentent pas la pathologie qu'on cible. Puis on va venir ici avec ça tester la sécurité puis voir comment le médicament se comporte dans une personne qui n'a pas, par exemple, des fonctions rénales affaiblies. Donc, on veut voir l'élimination du médicament, par exemple, est-ce qu'elle se fait de façon standard? Est-ce que le médicament pose un danger pour la sécurité d'une personne qui n'est pas... dont ces systèmes ne sont pas affectés par la maladie?
Mais est-ce que ça se pourrait, puis là, je pose une question que probablement le public poserait, est-ce que ça se pourrait que ça pose des problèmes à la personne qui n'en a pas? T'sais, est-ce qu'elle pourrait devenir avec l'insuffisance rénale parce que le médicament, finalement...
C'est quand même une possibilité. Puis une des choses qu'on fait pour amenuiser ça, c'est que ces études-là sont faites sur un très petit nombre de personnes, puis le monitoring est très rapproché, il est très suivi. Mm-hmm. Donc je peux pas arriver ici vous mentir puis dire non, tout est rose. Donc la réalité, c'est qu'on le sait pas. Puis c'est pour ça qu'on teste sur un nombre réduit de personnes.
Donc il faut ajouter qu'aujourd'hui sur le marché, on a aucun médicament qui a aucun effet secondaire. Non. Chaque médicament, même une vitamine C, il y a des effets secondaires.
Mais ouais. Ça pourquoi, hein? Est-ce que vous pouvez nous, en tant que biologiste chimiste, comment ça se fait qu'il y a toujours des effets secondaires? Comment ça se fait qu'on pas garder avant une molécule qu'il n'y en a pas?
Mais la tasse de café qu'on a pris ce matin a des effets.
Oui, j'en ressens quelques-uns.
C'est un peu tout ça qui est le cas aussi avec un médicament. Donc, on vient interférer avec des systèmes qui, normalement, se comportent d'une façon. Donc, c'est indéniable qu'on va avoir des effets secondaires. Là où ce qu'on veut faire la ligne, c'est un effet secondaire qui est acceptable versus un effet secondaire qui n'est pas acceptable.
Comme la mort.
Comme la mort.
Oui,
mais exactement. On évalue tout simplement le bénéfice par rapport au risque. Est-ce que le bénéfice est plus important?
Ça me semble être toujours ça. Hein? Même pour le carnet vaccinal, ils vont choisir les vaccins qu'ils nous administrent selon le bénéfice-risque.
Tout à fait. Mais la mort reste un effet secondaire qui, dans certains cas, est acceptable quand ça ne touche pas l'ensemble des gens. Ouais. Donc, si on prend un médicament qui va être administré à quelqu'un qui est en phase terminale d'un cancer X ou Y, bien, si la durée de vie est allongée... Mais on donnait ce médicament-là à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Donc, il y a ça. Puis c'est à noter, par exemple, que certains médicaments ne vont pas être donnés à des gens inutilement non plus. Là.
Non, c'est ça.
Ça dépend de la nature du médicament à l'étude qui va être faite. Là. C'est désigné en conséquence.
Puis j'imagine que les études ont toujours fait à l'aveugle, là, dans le sens que, tu sais, je pense que dans certains cas, ils vont donner une pilule de sucre, la pilule pour vraiment être objectif sur son effet. Là.
Ouais, juste mentionner, par exemple, si on prend quelqu'un qui a une maladie grave, on va pas prendre la moitié du groupe avec la pilule, puis la moitié avec une pilule
chiant,
de sucre.
Ouais.
Le traitement standard, dans ce cas-là, va servir de comparateur dans la mesure où il y a déjà un traitement qui est disponible. Puis dans certains cas, il y aura simplement pas de groupe contrôle non traité parce que l'échantillon de personnes atteintes de la maladie, par exemple une maladie rare, est trop faible. Puis on peut pas se permettre.
Mais c'est souvent le cas pour le cancer aussi.
Tout à fait.
Mais c'est du cas par cas. Puis tu sais, l'éthique, c'est sérieux. Là. Même moi, en sciences sociales, je passe par l'éthique, puis c'est très, très sérieux dans le sens, même le genre de questions qu'on pose dans notre cas. Donc vous, j'imagine pas, avec de la recherche avec des êtres humains, tester des médicaments, ça doit être très, très, très sévère. En tout cas, à l'Université de Sherbrooke, les recherches...
Tout à fait. Mais juste mentionner, Sarah et moi, on n'a pas fait de recherche sur les êtres humains, donc on est vraiment en amont.
Oui.
Donc ce que je vous dis, c'est ce qu'on passe un peu à nos collaborateurs. Il y a de la recherche clinique qui se fait à l'Université de Sherbrooke, notamment au Centre de recherche clinique du CHUS, qui est un de nos partenaires principaux. Puis ils vont faire notamment la phase 1 sur les patients sains, sur des personnes saines. La phase 2 qui est sur des personnes qui sont atteintes ou susceptibles d'être atteintes de la maladie. Là, ce qu'on va venir tester, c'est pour la première fois l'efficacité chez l'humain. Donc si on a une personne avec la condition pathologique, maladie cardiaque par exemple, on va venir mesurer des indicateurs à savoir si notre molécule a un effet au niveau de la pathologie chez la personne qui est atteinte. Et finalement, la phase 3 qui, elle, se fait sur plusieurs dizaines de milliers de personnes. Lorsqu'on parle de maladies qui sont largement répandues, ce qui n'est pas le cas pour certaines maladies comme les maladies rares, mais dans ce cas-ci, on va venir voir si le schéma posologique de façon générale est efficace.
Wow. OK. Donc, c'est quand même très complet. Comme, puis, tu sais, on a la phase 1, 2, 3, là, on vient d'en parler, mais il y a une quatrième phase aussi que moi, j'ai appris en faisant le projet pour Jérôme. Là. Oui. Il y a une quatrième phase. Comment ça marche, cette quatrième phase-là? Elle vient quand?
En fait, c'est une phase qui est en continu après la commercialisation du médicament. Donc, on vient s'assurer qu'au niveau de l'échelle populationnelle, au niveau vraiment, une fois que le médicament est sur le marché, il n'y a pas d'effets secondaires qui sont très rares souvent, parce que sinon, on les capte dans les étapes précédentes. Mais on veut s'assurer que sur le 3 millions de personnes qui le prennent à présent, le médicament, ça cause pas un effet qu'on avait pas vu. Parfois, une chose qui peut arriver aussi, c'est que les populations sur lesquelles le médicament a été étudié précédemment sont pas représentatives de la population générale. C'est pour ça que c'est important de bien baser les études cliniques, qu'il y a des critères d'exclusion très stringents. Mais ça peut arriver que le médicament se retrouve chez une personne dont la catégorie, dont les
symptômes.
Les symptômes. Pas toujours, mais vraiment le background, par exemple la génétique, les maladies précédentes concomitantes, les comorbidités, soit pas étudiées dans le cadre des essais cliniques précédents. Et ce médicament-là peut avoir un effet qui n'était pas prévu.
Un effet délétère parce que, mettons, la personne a une condition cardiaque, ça n'avait pas été évalué comme ça dans la phase. Okay.
Donc, une fois que ces effets-là vont survenir, mais ils vont être déclarés, puis on va pouvoir réajuster un petit peu la présentation du médicament aux professionnels de la santé qui le prescrivent.
Donc, c'est quand même...
De temps en temps, le médicament peut être même retiré du marché.
Tout
simplement si on découvre des effets néfastes et secondaires qui sont extrêmement graves.
Mais comme on pense au fameux, on revient toujours à cet exemple-là, mais le fameux antinauséeux pour les femmes enceintes.
La thalidomide,
La thalidomide qu'on avait découvert par la suite que des femmes enceintes, ça causait des malformations.
Tout à fait. Mais une des raisons de ça, c'est aussi que les femmes enceintes ne sont pas les populations mises à l'étude généralement, d'un point de vue clinique, pour des raisons qui sont évidentes. Mais ça cause un problème. Tu mentionnais aussi tout à l'heure la différence entre le sexe des animaux employés. Mais il y a une majorité d'études qui sont faites chez des mâles. Donc, ça cause des disproportions.
Ce que Pedro disait, Pedro Dolayan-Just, qui est un chercheur aussi à l'Institut, c'est que souvent, les candidats mâles étaient préférés à cause qu'il n'y a pas les fluctuations hormonales qu'on connaît chez la femme, humaine ou chez les animaux. Donc, il y avait moins de biais possible au niveau des tests. Donc,
on a introduit un réel biais populationnel en faisant ce choix-là.
Exactement, non, je suis tout à fait d'accord. Donc là, on a passé par-dessus la commercialisation un petit peu parce qu'on voulait parler de la phase 4, mais il y a toute Santé Canada aussi là-dedans avant la commercialisation. Santé Canada, est-ce que c'est... on peut-tu les payer avec un petit sac brun? Est-ce que c'est facile de passer? Comment ça fonctionne?
En fait, le dossier va être complété avant même les premiers essais cliniques chez les humains. Donc, on ne peut pas décider, Sarah et moi, que la molécule macrocyclique développée par Sarah a un super potentiel, puis on demande à nos cousins et cousines en santé de le tester, puis d'initier une phase 1. Donc, c'est vraiment important de comprendre qu'il faut aller justifier le démarrage d'un essai clinique. Les données sont colligées de façon assez très stricte, en fait. Il y a des gens indépendants qui vont venir voir les données, les mesures, valider, faire des inspections surprises dans les sites où les essais cliniques sont menés. Donc, c'est vraiment très rigoureux. Puis, à la fin de ces essais-là, on rend les données à Santé Canada qui va décider ou non si le médicament peut être approuvé pour telle ou telle indication.
Puis c'est assez sévère. Si je pense Santé Canada, il y a la FDA aux États-Unis, tout ça, puis il y a différents niveaux de sévérité. Là, je sais qu'en Europe, c'est encore plus sévère que Santé Canada, là, surtout au niveau des cosmétiques, tout ça, il y a plein de trucs comme ça, mais c'est quand même assez sévère.
C'est sévère. Puis, en fait, souvent, les compagnies qui développent les médicaments, donc les compagnies pharmaceutiques, de pair avec leurs partenaires académiques, vont prévoir l'étude de la façon la plus stringente possible afin de répondre au maximum d'exigences réglementaires au travers des différents pays parce qu'ils veulent idéalement rendre leurs médicaments accessibles à toute la population et non seulement aux gens au Canada, par exemple. Donc, souvent, les critères stringents des autres pays vont aussi affecter l'étude, comment elle-même va se dérouler au Canada.
Je pense qu'il ne faut pas oublier que tout ça, c'est pour nous protéger au final.
Ben oui, les chercheurs comme la population, comme n'importe qui. Là, donc, c'est vraiment des étapes très importantes à suivre qu'on ne peut pas sauter nécessairement. Donc, pour revenir à l'introduction, par rapport à la COVID, le vaccin, vous, qu'est-ce que vous auriez à dire à des gens, par exemple, qui sont inquiets que les médicaments ou les vaccins, on soit comme des, on dirait « guinea pig » en anglais, là, je mets des gros guillemets là, pour Sébastien, parce que je sais que c'est un fervent du français, mais tu sais, des sujets un peu d'expérience, tu sais, comment vous diriez aux gens là, à la maison là, que c'est pas possible?
Il faut dire que la COVID-19, c'est une nouvelle maladie. SARS-CoV-2, c'est un nouveau virus. On n'a pas eu encore 15 ans de travail. On n'a pas travaillé dessus pendant 20 ans d'années pour comprendre comment nos molécules ou nos médicaments marchent. Donc, malheureusement, on doit dire que oui, c'est des médicaments qui sont nouveaux, mais il y en a certains comme par exemple Remdesivir qui a été utilisé dans le cadre d'autres maladies. Donc aujourd'hui, on a réutilisé au final la technologie, on a réutilisé la molécule pour la COVID-19.
Remdesivir, ça c'est la technologie de par ARN, c'est ça?
On y dit en fait une protéine à l'intérieur de la cellule qui permet de former les différentes unités structurales du virus lui-même. Donc, c'est vraiment...
C'est un antiviral.
Oui, exact, un antiviral, oui.
OK, ça, c'est un autre... C'est pas le vaccin, ça serait d'autres choses.
C'est autre chose, oui.
Ça, pour les gens à la maison, par exemple, des antiviraux pour la grippe qu'on connaît depuis plusieurs années, là, qui sont parfois donnés à des personnes âgées, justement, en dernière ligne. Mais il y en aurait pour la COVID aussi, mais ce serait quelque chose qui avait déjà été fait pour la grippe, justement.
Exact. La technologie existe contre le sida. La technologie existe. On la connaît. On sait exactement comment le médicament il agit dans une cellule humaine. Et aujourd'hui, on a juste réutilisé pour une autre maladie, une nouvelle maladie auquel on a fait face. Et l'urgence de la COVID-19 a clairement besoin de ce médicament.
Ce processus-là est légèrement différent du développement d'un nouveau médicament. Exactement. En anglais, on parle de « repurposing » pour faire les guillemets. Donc, cette réutilisation d'une drogue-là doit quand même être soumise à Santé Canada parce qu'initialement, ce n'était pas la maladie pour laquelle la molécule avait été développée ou la technologie avait été développée. Mais c'est une façon qui est... C'est une technologie qui est de plus en plus... En fait, la réutilisation de médicaments déjà sur le marché, c'est quelque chose auquel les compagnies pharmaceutiques s'attardent grandement parce que ça a des coûts très réduits. Ça peut avoir des grands bénéfices pour la population parce que le médicament est déjà sur la tablette pour une indication X. Oui. Puis on se rend compte que ça peut avoir un effet sur autre chose.
Y, par exemple.
Cet effet sur Y, c'est peut-être l'étude de phase 4 qui nous le signale aussi parce qu'on tend à avoir des effets chez une population. Ça peut être une question de dose, d'administration, etc. Donc, c'est le genre de choses qu'on va aussi pouvoir monitorer là, avec une phase 4.
Où la pharmacovigilance, justement, la dernière étape est très importante parce qu'on va étudier comment cette molécule, elle agit dans des populations différentes pendant 20 ans, 15 ans.
Ben exactement. Puis, tu sais, moi, je trouve ça super intéressant parce qu'on sait qu'il y en a eu des cas comme ça. Par exemple, c'est les antidépresseurs, ça n'a pas été découvert dans cette cible-là, au début, c'était pour la douleur ou autre chose. Puis finalement, on a dit, oh mon Dieu, les gens sont tombés de bonne humeur. Ils ont mal pareil, mais ils sont de bonne humeur. Fait que, ça va faire des antidépresseurs. Il y a eu plusieurs cas comme ça. Un antituberculeux aussi qui est devenu d'autres choses. Donc, tu sais, il y a beaucoup de médicaments qui ont été. Donc, c'est vrai, c'est des coûts réduits, du temps réduit. Puis des fois, tu sais, le volume de recherche, puis le coût que ça a coûté. C'est bien de pouvoir le récupérer. On parle de recyclage au niveau de l'environnement. Ben, ça peut être aussi un peu le même esprit.
Mais c'est exactement ça, en fait, parce que les études comme ça qui se déroulent sur de nombreuses années dépensent, ça coûte très, très cher. Puis le financement de la recherche fondamentale qui ne donne pas toujours un médicament est d'autant plus important parce que c'est cette technologie-là, dans le cas des vaccins ARN, comme Sarah l'a mentionné, qui a permis d'arriver avec un médicament. Mm-hmm. Mais ça a des conséquences en termes écologiques. Le matériel qui est utilisé, c'est non négligeable.
Bon, on tente d'être de mieux en mieux avec la Beauvert à l'Université de Sherbrooke. On est quand même des précurseurs au niveau environnemental, mais ça reste qu'on a du matériel, tout ça, puis c'est coûteux.
Réduire reste préférable à recycler.
Absolument, absolument. Alors, on va terminer déjà, il est déjà les 27, avec un petit quiz, justement, pour les gens à la maison. Là, mes deux panélistes étaient très nerveux ce matin quand j'ai dit qu'on faisait un petit quiz parce qu'ils ont peur de ne pas avoir les bonnes réponses. Ça, c'est typique des gens en sciences fondamentales. Donc, je vais être gentil avec vous. On est gentil avec eux à la maison. Ça, c'est des informations qui sont très statistiques que moi-même, je ne savais pas, que j'ai dû chercher sur le net, mais on va s'amuser un petit peu ce matin. Alors, ma première question pour vous, c'est assez facile. On va commencer relax. Donc, en moyenne, combien de temps ça prend faire le développement d'un nouveau médicament, selon vous, en moyenne? Ouh. J'accepte des réponses entre...
En moyenne?
Bon 15 ans?
Oh, moi, je dirais même plus 20 ans, peut-être.
Ah, ben tu vois, la moyenne, Sébastien l'a eu, 15 ans. Ben 10 à 15 ans, en fait. Donc, on a 10 à 15 ans, mais ça peut être plus long, Sarah, t'as raison. Comme par exemple pour la COVID, on parlait tantôt qu'il y a une vingtaine d'années pour la biotechnologie. La deuxième question, combien coûte en moyenne le développement d'un nouveau médicament en termes de dollars?
Milliards de dollars.
Combien? Bonne réponse! Alors, 2 milliards de dollars pour la création de nouveaux médicaments. Donc, ils sont quand même bons. Ils étaient stressés, mais ils sont très bons. Et là, on a parlé de plusieurs étapes pour le développement. Combien il y a d'étapes en tout pour ce développement-là?
Il y a plusieurs écoles pour compter les étapes. Ouais. Oh. Moi, j'en connaissais 6, mais je crois que selon comment on définit les étapes après commercialisation, tout ça, on peut peut-être monter à 9.
6, 8, ouais, c'est ça.
8, exactement. Ben c'est 8 étapes, en fait, parce qu'on va les nommer ensemble. Donc, on a la recherche de la molécule, on en a parlé tantôt, mais là, toi, tu m'as dit qu'il y avait aussi précédemment de comprendre la pathologie.
Tout à fait.
Donc, on pourrait peut-être en rajouter une autre. Donc, peut-être 8-9. On a la phase préclinique, qu'on disait chez les cellules, tout ça, pour voir comment ça se comporte une fois dans un organisme X. Ensuite, on a la phase 1 clinique, la phase 2 clinique, la phase 3 clinique. On a ensuite Santé Canada. On a la commercialisation et la phase 4. Donc, on est à 8 étapes. 9 peut-être si on compte là, les biologistes qui sont à la recherche de la compréhension de la pathologie, comme on en a discuté en début d'entretien. Et dernière question, mais non la moindre, celle-là est quand même difficile, je vais vous donner des choix de réponse. Pour vous, là on parle mondialement, combien... Non, pas mondialement, au Canada. Combien de nouveaux médicaments par année sur le marché? Combien il y en a qui arrivent sur le marché par année qui sont autorisés par Santé Canada? Donc, je vous donne trois choix de réponse. A. Est-ce qu'on parle de 200 médicaments? B. 15? Ou C. 130?
Moi, je pense qu'autour de 130. C'est quand même un chiffre 130 aussi.
Oui, ben vous avez raison. C'est en fait en moyenne 138 nouveaux médicaments par année qui sont autorisés par Santé Canada, ce qui est quand même une bonne variété de médicaments. On ne sait pas trop c'est quel genre de médicaments. Peut-être qu'il y a certains que c'est de la vitamine, là, des choses comme ça. Ce n'est pas tous des médicaments pour des pathologies vraiment, des maladies orphelines ou des pathologies comme le cancer, tout ça. Mais il y a quand même 138 nouvelles molécules chaque année qui sont autorisées par Santé Canada en moyenne.
On travaille fort, hein?
Oui, vous travaillez fort, exactement. Donc, on est déjà à la fin de cette entrevue-là. Moi, je trouve toujours que ça passe très vite. Je voulais vous remercier de vous être déplacé, d'être venu pour cet épisode-là. Puis, si vous avez un petit mot de la fin à dire, admettons qu'on se donne une petite minute de plus, qu'est-ce que vous diriez aux gens à la maison par rapport au sujet d'aujourd'hui, à votre vécu, à vous, d'étudiants, de professionnels?
Je dirais juste, intéressez-vous à la science.
Moi, je dirais aussi soutenir la science, parce que là, on parle des 138 médicaments qui ont été approuvés, mais c'est sans compter les centaines, les milliers de médicaments qui ne sont pas devenus médicaments. Donc, supporter cette recherche-là pour avoir un succès final, il faut supporter l'ensemble du processus de développement, incluant les projets qui arrivent pas à terme.
Parce qu'il faut se rappeler que pour une molécule qui arrive sur le marché, il y en a 10 qui n'arrivent pas.
Tout à fait. Souvent. Donc, ça fait 9 projets infructueux à soutenir.
Ça fait des gens qui ont un bon niveau de frustration et qui sont capables de persévérer malgré les obstacles. Alors, c'est là-dessus.
C'est la science.
Exactement. Alors, intéressez-vous à la science, puis souvenez-vous que c'est compliqué, la recherche. Donc, essayez de contribuer comme vous pouvez à ça, parce qu'au final, c'est pour la protection de la société, c'est pour la santé, une société en meilleure santé. C'est bien intentionné, finalement, tout ce processus-là. On voit que les gens se posent des bonnes questions tout au long, dans les différentes étapes. Il y a des instances en éthique, des instances en Santé Canada qui vont veiller à ce que les médicaments qui arrivent dans votre sac blanc à la pharmacie soient sécuritaires. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée là-dessus. Puis, merci d'avoir participé à cet épisode de balado-là. C'est toujours très apprécié par notre public. Puis, là-dessus, je vous souhaite une super belle journée pluvieuse. Puis, on se retrouve pour un 8e épisode en novembre prochain. Merci beaucoup.
Merci.
Bonne journée.